Le titre de mon message est bien spécifique. C'est spécialement pour peut-être pour une ou deux personnes ici, mais peut-être pour toutes et tous. Le titre, c'est « La volonté spécifique de Dieu captée par nos pensées ». En tout, il y avait environ 10 messages que j'ai sur la volonté de Dieu. J'ai déjà donné un message sur la volonté de Dieu et nos songes. La volonté de Dieu et nos contacts, les rencontres divines. Sachez quoi, c'est le premier message que j'ai donné. Et deuxième, donc, sur les circonstances. Et il y a un autre aussi que j'ai donné, la volonté de Dieu. Encore, ce matin, c'est sur la volonté spécifique de Dieu, captée par nos pensées. Et c'est basé sur Romains 12, verset 2. Jacques, si tu veux commencer avec ça. C'est donc Romains 12, verset 2. C'est un verset qui est important. Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées pour capter la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et juste. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais c'est Dieu qui parle, c'est pas Paul, c'est Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, jusque-là. Donc la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et on peut le capter par le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Donc ça, c'est la base de mon message. Et il faut savoir, quand on devient chrétien, on ne devient pas des robots. J'ai noté ça sur ma feuille. On ne devient pas des robots. Que Dieu juste appuie ici et dit, dis-moi, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des robots. C'est très important de savoir. Nous avons tous notre libre arbitre. Il y a un courant de chrétiens qui aussi s'appuie sur la Bible qui ne croit pas ça. Ils pensent qu'il y a présélection par Dieu et puis il y a des gens qui vont être sauvés, d'autres qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont rien à dire. Si tu veux ou si tu ne veux pas, il y a des gens qui vont automatiquement vers le ciel. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu t'a donc prédisposé à ça. Ça s'appelle le calvinisme. Il y a un autre courant, c'est l'arminien. Les arméniens. Notre arménien. Arminius. Il y a un autre courant, c'est le contraire. Tu dois choisir. Tu dois croire toi-même. Et si tu ne crois pas, donc ça, c'est ta responsabilité. Et moi, je suis plutôt de ce côté que nous devons croire nous-mêmes et avec notre responsabilité que nous avons. Mais nous devons être renouvelés, et ça, c'est seulement possible d'être renouvelé dans nos pensées quand on est converti. On ne peut pas être renouvelé par le Saint-Esprit si longtemps qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important. Alors, il y a deux semaines, nous avons reçu un message ici par toi, Rémi, sur l'autre, l'Alos. Jésus est parti, mais il dit, avant de partir, je vous envoie le Saint-Esprit, l'Alos. Il y a deux mots, donc en grec, Eitros et Alos. Et j'ai donné une fois un message, j'ai dit, mais quand tu vas chez le boulanger et tu demandes un pain gris, tu as déjà acheté, et tu dis, donne-moi un autre. Alors ça, c'est le mot Alos, un autre pain pareil. Mais si tu veux avoir un pain au raisin, ça c'est Eitros. Donc, tout dépend ce que tu veux. Alors, le Saint-Esprit est comme Jésus, mais il habite en nous. Jésus est au ciel, mais Jésus habite dans notre cœur en même temps. Ne me demande pas de l'expliquer, ça c'est le mystère. Mais par le Saint-Esprit, Dieu habite dans notre cœur. Et c'est donc l'Alos de Dieu, c'est Jésus qui habite dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que Dieu nous aime. Il montre de la bienveillance dimanche passé. Donc, il y avait un message de Jean-Luc ici sur la bienveillance de Dieu. Je n'étais pas ici, Bérine non plus, mais on a lu le message et ça nous faisait de bien. Et aujourd'hui, donc, je continue parce que Dieu est bon, il veut nous guider. Et aujourd'hui, je parle justement sur quelque chose de très spécifique, la volonté spécifique de Dieu captée par nos pensées. Les animaux, ils vivent, mais ils ne peuvent pas penser comme nous. Les gens qui croient dans tout cela, que nous venons de singes, dans ma famille, il n'y a pas de singes. Jamais vu. Mes grands-parents, j'ai connu jamais de singe dans ma famille. Alors, si les autres le croient, ça, c'est leur affaire. Alors, donc, seulement après notre conversion, nous pouvons être renouvelés par notre entendement, par nos pensées. Il faut savoir aussi que nous vivons comme nous pensons et souvent notre vie est le reflet de nos pensées. Très important cette phrase. Nous vivons comme nous pensons et souvent notre vie est le reflet de nos pensées. Si tu as des pensées tristes, tu as peut-être aussi des traits sur ton visage qui sont tristes. Même ton visage, même le corps, la façon qu'on pense. Il y a un gars que j'ai connu, il marchait toujours comme ça. Alors, il est assez triste quoi, dans ses pensées aussi, et ça se montre dans notre attitude, dans notre comportement. Il faut savoir aussi, chers amis, l'importance de contrôler nos pensées. Ça, c'est important. Et avant cela, je veux dire aussi, nous vivons comme nous pensons, donc, et il y a un verset, un proverbe 23, versets 6 et 7, que l'homme est comme les pensées de son cœur. L'écrivain inspiré par Dieu dit, il y a un homme là qui est assez riche, il a tout ce qu'il faut, et il ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Il dit, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme nous pensons. Sachez bien que nos pensées sont très importantes. Et donc, une grande partie de mon message est sur cela. L'importance de nos pensées, voyez. Si nous ne contrôlons pas nos pensées, ce sont nos pensées qui vont nous contrôler. C'est une phrase importante. C'est pour cela qu'il y a aussi un verset que j'ai mis en musique il y a longtemps. C'est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est le profond de ton être. Tes pensées, tes sentiments, le profond de ton être. Le mot cœur veut dire cela, pas seulement les sentiments, mais vraiment les pensées aussi. Donc Proverbe 23, verset 6 et 7, l'homme, ce que je l'ai dit déjà, Proverbe 4, verset 23. Le cœur est lié à notre cerveau et ensemble, ça forme le centre de notre être. Maintenant, une question. Pratiquement tous, vous avez voyagé en train. Certains ont voyagé en avion. Vous savez combien de contrôles sont dans un avion pour le pilote? Dans un jumbo jet, il y a des camps. Nous avons pris souvent l'avion parce que mes parents habitaient aux États-Unis. Mon frère aussi, et ma soeur aussi. Et je viens de perdre mon frère. Perdre, il y a 2 semaines. Il s'appelle Frédéric Johannes. Moi, j'appelle en hollandais Johannes Frédéric. Et mon frère aux États-Unis, c'était Frédéric Johannes. Mes parents n'avaient pas beaucoup de fantaisie. Pas beaucoup de... Johannes Frédéric. Il est mort il y a 2 semaines. Il a eu une crise cardiaque, il paraît. Il n'est plus là. Mais pour aller aux États-Unis, donc, souvent, on a pris l'avion. Et dans un avion, donc, un jumbo jet... Combien de contrôles est-ce que le pilote? Vous savez, 900. C'est beaucoup plus que j'ai pensé. Parce que dans la voiture, on a besoin de 3 ou 4. Mais là, tu as dans un avion 900 contrôles. Et tout cela se trouve dans le cockpit. Et donc, le pilote va connaître par cœur, parce qu'il y a des moments difficiles. Les 900 contrôles, c'est énorme. Il faut savoir aussi... pour nous aussi, toutes les commandes de contrôle se trouvent dans notre cerveau. Il y a une petite boîte ici, tout est là. Celui qui contrôle nos pensées, notre cerveau, celui qui contrôle nos pensées, contrôle aussi toute notre vie. Soit le monde, soit Dieu, soit Satan, l'ennemi de Dieu. Ça, c'est une chose importante de savoir. Donc, qui contrôle notre cerveau? Et notre cerveau contrôle notre comportement, nos paroles, nos actions, nos réactions aussi. Important, pas seulement les actions, mais les réactions. Nos objectifs, nos décisions, notre échelle de valeur, nos sentiments, notre sexualité. Tout dépend de ce qui se passe ici dans la tête. Alors, il faut faire attention, donc, chers amis, au lavage de cerveau. Ça veut dire qu'on est tellement contrôlé par les autres, par les nouvelles, par le journal, par un livre, par quelqu'un qui nous prêche peut-être des choses de fausseté, pas la vérité. Ça s'appelle le lavage de cerveau. J'ai entendu un ami chrétien une fois dire, qu'il est devenu chrétien, il a changé de vie complètement. Et sa maman a dit, mais tu as tellement changé, certainement tu as subi le lavage de cerveau. Il a dit, maman, tu savais combien j'en avais besoin. Parce que on a besoin d'avoir un changement dans le cerveau de tout ce qu'on avait avant notre conversion. Peut-être on était religieux, mais on n'était pas chrétien. Il y a des gens qui sont religieux, des millions et des milliards, des gens qui sont religieux, mais être religieux, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. Quelle est la différence entre chrétien et avoir une religion? Être chrétien, ça veut dire qu'on accepte avec foi et avec joie que Jésus-Christ est venu, il a fait le travail pour nous sur la croix. Avoir une religion, c'est le contraire. C'est nous qui devons faire tout pour avoir une place plus tard au ciel. C'est notre travail, nos efforts. Ça, c'est la différence avec les gens qui sont catholiques ou protestants. C'est pareil hein, pour moi, parce que ma mère était catholique, mon père était protestant. Je connais les deux côtés. Mais quand je me suis chrétien, j'ai compris que c'est ni l'un ni l'autre. Être catholique ou être protestant sont les manteaux seulement. Mais le cœur doit être touché, et ça, c'est par la grâce de Dieu. On accepte que Jésus a fait tout pour nous. Et j'aime les chants qu'on a, on a chanté de Jésus. Ça, c'est très important que je dise ça, parce que parfois, il y a, même parmi les chrétiens, on peut avoir une salle pleine de gens, 500, 600, j'étais dans les églises, 400, 500, 600 personnes, et on n'entend jamais l'évangile. Et je me suis dit, les pasteurs doivent penser que tout le monde est chrétien, mais ce sont les gens qui sont religieux souvent, ils chantent comme tout le monde, ils lisent la Bible, ils parlent comme tout le monde, mais ils ne sont pas chrétiens encore. Dieu connaît leur cœur, mais on devient chrétien seulement par Jésus, pas parce qu'on est dans une église. Vous êtes d'accord jusque maintenant? Alors, je me sens bien. Alors, important donc. Attention donc au lavage du cerveau, c'est l'influence de l'extérieur. En méditant, c'est important, ça va avec, en méditant et nourrissant une même pensée, elle risque de devenir une conviction. Même il y a des gens qui font la méditation, mais la méditation de quoi? Si tu fais la méditation biblique, que tu lis les versets de la Bible et tu es imprégné par ce que Dieu dit, tu ne peux pas faire fausse route. Mais tout dépend de ce que tu médites. Il y a des gens qui méditent toutes sortes de choses. Mais ça, c'est important de le savoir aussi. Qu'est-ce qu'on médite? En méditant et nourrissant une même pensée, cela risque de devenir une conviction. Alors, quelle est la définition? Parce que je veux savoir toujours ce mot veut dire, le mot pensée en français. D'où ça vient? Alors, le mot pensée vient du latin pensare ou payer. Vous savez ça? L'origine du mot pensée vient de pensare en latin ou payer. Ça vient de ce qu'on payait primitivement. Et parfois, j'ai mis ça ce matin, on paye cher pour une mauvaise pensée. Si tu as une mauvaise pensée, tu vas avoir une mauvaise vie, tu fais des choses qui sont... Et puis tu payes cher plus tard. C'est peut-être une fille, elle aime tellement le garçon, elle va coucher avec, elle attend un bébé, elle a 15, 16 ans, elle est dans le pétrin. Parce que ça commence avec les pensées. Et beaucoup d'autres choses. On s'engage de temps en temps sur une mauvaise route. Alors, l'origine du mot était... De mon pensée, c'était l'angoisse, le tourment, le suspense. Suspense ou le suspens? Suspense, c'est mieux. Alors, le sens étymologique, c'est comparer, juger, soupeser la valeur des idées données par l'intelligence. Tandis que le mot conviction, je reconnais aussi, ça va plus loin que la pensée, c'est la certitude bien fondée, croyance ferme, mais pas toujours juste. Il y a des gens qui ont conviction, mais la conviction commence complètement fausse. Tu peux avoir une certaine conviction, mais qui n'est pas selon Dieu. Alors maintenant, j'ai une autre question. Dites-moi, combien de pensées est-ce qu'on a par jour, vous pensez? Il y a des gens qui ont étudié le nombre de pensées qu'on a par jour. Vous savez, ça arrive parfois jusqu'à 60 000. Et de ces 60 000... 20%, ça veut dire 12 000 sont positives. Ça veut dire aussi que 48 000 pensées par jour sont négatives. Donc 60 000 en tout, ça veut dire presque une pensée par seconde. On va d'une pensée à une autre, on ne se rend même pas compte. Parfois, il y a des gens qui sautent de coq à l'âne, on dit en France. Mais on va d'une pensée à une autre, il y a des gens, mais ça va tellement vite, ça c'est important. Et si on a des pensées qui sont négatives, il faut savoir, ça peut produire l'anxiété, la dépression, la mauvaise santé, et ça peut aller jusqu'au suicide. Mais ça commence toujours dans la pensée. C'est beaucoup, hein? 48 000 par jour de pensées qui sont négatives. Donc nous avons intérêt de changer nos pensées négatives en pensées positives. Heureusement, c'est possible par l'intervention directe de Dieu, mon frère. Réveille-toi. Alors, c'est important de savoir, au début du psaume 139, au début du psaume 139, il y a trois versets. C'est le psalmiste qui dit, il sait une chose, il dit, Dieu sonde mon cœur. Mais à la fin du psaume, il dit, sonde mon cœur. Il donne l'acceptation, il donne la porte ouverte. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis le dernier verset, c'est pas important. Le dernier verset dit, alors Seigneur, sonde mon cœur. Au début, il dit, je sais que tu me sondes, mais le dernier verset veut dire, dans ce même psaume, maintenant sonde-moi, Seigneur. Il donne donc la permission à Dieu. Ça, c'est important. Il y a des choses qu'on sait, mais est-ce qu'on donne la permission à Dieu de le faire? Donc ça, c'est important. Cela a créé des convictions fermes selon la pensée de Dieu. Alors, il est devenu un homme de Dieu ferme. Est-ce que nous vivons avec des convictions fermes basées sur la parole de Dieu? Cela peut prendre du temps, mais c'est possible. Il y a quelque temps, j'ai entendu une histoire vraie d'une femme chrétienne. Souvent, elle était triste, elle n'était pas sûre que Dieu l'aimait. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs que Dieu l'aimait, que Dieu les aime, que Dieu est là avec la bienveillance de Dieu. Et il y a un chant entre parenthèses, « Ta bienveillance, ô Éternel, c'est mieux que tout ce que j'ai vu. » C'est un des meilleurs chants que je connais. Merci, merci Seigneur pour ce chant, parce que la bienveillance, c'est un fruit de l'esprit, c'est merveilleux, l'esprit de Dieu, et le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu, c'est merveilleux. Et cette femme ne connaissait pas l'amour de Dieu, et elle parle avec son médecin, et c'est un psychiatre chrétien, elle est bien tombée, ça c'est très rare. Donc, il a donné un verset, un petit passage dans l'Ancien Testament, basé sur Ésaïe 43, versets 2 et 3. Parce que, Elle se sentait triste, elle était dure, elle ne pouvait pas pleurer, elle n'était pas touchée par l'amour de Dieu, elle ne connaissait pas. Seulement, elle pouvait le lire, mais elle n'était pas touchée par l'amour de Dieu. Donc, là, elle a lu ces deux versets que nous lisons maintenant, et Dieu dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon, etc. Donc Dieu montre son amour en toutes circonstances. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et elle, le docteur a dit, lisez ce verset, ce passage-là, il est un petit peu plus même, lisez-le tous les jours. Et elle l'a fait pendant un mois, et puis elle a revu le médecin, dit ça va mieux, non, elle dit il n'y a rien qui changeait encore. Donc je crois pendant cinq six mois elle a lu le même passage, Ésaïe 43 verset 1, 2, 3. J'ai mis des versets en musique de ça, c'est merveilleux. Je t'aime, Dieu dit je t'aime, je te connais par ton nom, ça commence avec ça, je te connais par ton nom, je t'aime. Et après 5-6 mois, quand elle a relu ce passage, elle commence à pleurer de joie de l'amour de Dieu. Elle a été vraiment touchée parce que la parole de Dieu l'a touchée. Ce n'est pas parce qu'on lit rapidement, mais ça prenait du temps que ça entre dans son cœur. Et il y a des gens donc qui ont besoin d'abord, on a la pensée, après la conviction ferme, Dieu m'aime. Et quelqu'un qui est aimé par Dieu et qui sait qu'il est aimé par Dieu, ça change sa vie. Birim m'a aidé énormément cette semaine, juste petite illustration. Et pendant la nuit, c'est revenu. Pas cette nuit, la nuit avant, donc, de vendredi jour samedi. C'est revenu, je ne pouvais pas dormir. Béry m'avait dit quelque chose, il y a deux choses dans le Nouveau Testament. On voit Pierre, il dit, Seigneur, je t'aime. C'est l'apôtre Pierre. Jean ne dit pas ça, il dit, moi je suis le disciple qui Jésus l'aimait. Je suis le disciple aimé par Jésus. Tandis que Pierre dit, je t'aime, mais il a renié Jésus. Pierre, c'est de son amour. Tandis que Jean, quand même Dieu l'a inspiré, 5 livres dans le Nouveau Testament, écrits par un homme, c'est de Jean. L'évangile, 1er Jean, 2e Jean, 3e épître de Jean et l'Apocalypse. Mais ils se sentent aimés par Jésus. Et pendant la nuit, vendredi sur samedi, je ne pouvais pas bien dormir. Et Dieu m'a parlé par ça, ce que Béry m'avait dit, que Jean était le disciple aimé par Jésus. Et de temps en temps, il y a des pensées du passé qui sont pas là, qui ne doivent pas avoir, mais qui reviennent. Parce que un jour, ma mère a dit une chose qu'elle n'a pas dû dire. J'avais 9 ou 10 ans. Elle dit, ton père n'a jamais dû avoir des enfants. Et moi, je suis l'aîné de 4 enfants. Donc, je n'ai pas dû être là. Et ça me faisait tellement mal. Mais elle ne se rend pas compte. Il y a des gens qui disent, des mamans ou papas qui disent des choses aux enfants. Les enfants ne l'oublient pas. Et un petit peu plus tard, elle a dit une fois, parce que mon frère après moi s'appelle Tony. Elle dit, j'aimais toi, John, moi, plus que Tony. Mais maintenant, c'est changé. J'aime Tony plus que toi. Merci beaucoup. Donc je sens que mon père n'a pas dû avoir des enfants, ma mère ne m'aime plus, et de temps en temps ça me revenait, et de temps en temps Béry dit, il faut l'oublier, mais c'est facile de dire. Mais moi je souffrais, et pendant la nuit, vendredi nuit, le Seigneur m'a parlé. Et je pense à 3 versets, Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a aimé tout le monde. 2e chose, Romains 5 verset 8, que j'ai mis en musique aussi, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a aimé le monde, mais Dieu nous aime. Et après cela, je dis, mais c'est bien déjà, il nous aime, Béryl et moi, et vous aussi. Mais après Galates 2, verset 20, ça va plus loin encore. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle et dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, par la foi du Fils de Dieu, pas au Fils de Dieu, du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est livré lui-même pour moi. Dieu aime le monde, il nous aime, mais il m'a aimé, il a dit. Et pendant la nuit, je dis, Seigneur, tu m'aimes, qui suis-je? Même si mes parents ne m'ont pas aimé comme il fallait, toi tu m'aimes. Et ça, c'est une chose qui a guéri mon cœur. On a besoin de l'entendre spécifique pour moi. Tu m'as aimé. Et ça, c'est important de savoir. C'est seulement 2 feuilles. Donc, je commence la 2e feuille. Maintenant, j'arrive. Alors, Romains 12, c'était donc le verset de base de mon message. Romains 12, verset 2, montre le besoin d'obtenir de bonnes convictions par le renouvellement de nos pensées. On a vu ça ensemble. Pour capter la volonté de Dieu pour notre vie. La question se pose, est-ce que nous le voulons? On peut le savoir, mais est-ce que je veux être renouvelé dans la façon de penser? Seigneur, tu m'aimes. N'importe ce qui m'arrive, peut-être les autres ne m'aiment pas parce qu'on n'est pas toujours aimé, mais toi tu m'aimes. Comment faire cela? Alors, verset 1 donne la réponse, Romains 12, verset 1. En nous mettant sur l'autel de Dieu comme sacrifice vivant. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons être sur l'autel, pas pour mourir, mais pour vivre. Un sacrifice vivant. Dieu veut qu'on soit disponible à lui, corps, âme et esprit. Et ça, après ma conversion, j'ai vécu ça dès le début. Je dis, Seigneur, je veux être à toi. Fais avec moi ce que tu veux. Tu m'aimes, moi je t'aime, fais ce que tu veux. Et je veux vous. Alors là, c'est important de savoir. J'étais dans une réunion avec certains ici au Château Blanc. Et on a une réunion, on a parlé un petit peu de la volonté de Dieu. Et j'ai dit dans cette réunion, vous vous souvenez encore, on parle beaucoup de choses, mais la volonté de Dieu est révélée à chaque chrétien, à 90% déjà, dans sa parole. C'est-à-dire, il y a 3 aspects très importants. Si vous retenez ça, c'est déjà bien. La volonté de Dieu est souveraine pour une partie. Il y a un aspect, la volonté de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? La volonté de Dieu souveraine, c'est quoi? C'est-à-dire, il a créé tous les astres. Il a choisi un astre, c'est le nôtre, c'est notre terre. Il a choisi la terre comme demeure, comme maison pour nous, les hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu, la volonté souveraine. Il a choisi parmi tous les peuples un petit peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Il dit, pas parce que vous êtes plus puissant, plus grand que les autres, mais vous êtes le plus petit, mais je vous aime. C'est le choix de Dieu, choix souverain. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas changer. Dieu aime Israël plus que les autres. Si on aime ou si on n'aime pas, mais c'est comme ça. Dieu a choisi que son Fils vienne pour nous pécheurs, Jésus. Il a choisi la date de sa naissance. On ne sait pas si c'est le 25 décembre ou non, mais ce n'est pas important pour moi. Mais il est venu. Jésus est venu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il a marché sur cette terre. Et j'ai pendant cette nuit, ça c'était bien plus important que Dieu marche sur cette terre, que l'homme a pu marcher sur la lune. Quand on pense. Dieu a marché sur cette même terre où vous êtes et moi je suis. Mais je trouve que c'est merveilleux. Dieu a choisi le moment que Jésus devait mourir pour nous pécheurs. C'est Dieu. En Galates, on trouve que quand le temps était accompli, Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Je trouve que c'est merveilleux. C'est Dieu qui a choisi. Ça, c'est sa volonté souveraine. Dieu a choisi aussi le moment que Jésus va revenir. Jésus a dit lui-même, moi je ne peux pas vous le dire, personne ne le sait, mais mon Père, c'est l'heure. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Sachez-le bien, on ne peut pas le changer. Et je ne parle pas, ça, ce n'est pas mon sujet. Il y a une deuxième chose, c'est la volonté morale de Dieu, les 10 commandements. Et Jésus a résumé ça dans le Nouveau Testament. Il dit les 10 commandements, ça revient à deux choses, aimer Dieu, de tout notre cœur, notre force, notre âme et tout le reste, et notre prochain comme nous-mêmes. Et si on fait ça déjà, disons la volonté donc souveraine de Dieu, 10%, la volonté morale de Dieu, 80%, c'est 90%. Il y a encore 10% qui restent, mais ça, c'est personnel. Et chaque fois, quand je vous ai donné un message sur la volonté de Dieu, c'est toujours sur ça. Parce que j'aimerais savoir ce que Dieu veut pour moi et pour vous. Donc, c'est la volonté spécifique. Alors, je vais vous donner deux illustrations, ce qui concerne ma vie. Juste une petite illustration pour vous montrer comment ça marche. Parce que, quand on donne des messages et on ne l'a pas expérimenté soi-même, moi je ne peux pas donner un message sur ça. Et quand Jean-Luc, mon ami, vous a donné un message qu'il a essayé de démolir une voiture, non pas du tout, qu'il est rentré dans une voiture par erreur, et tout cela, et ça s'est bien tourné à la fin. Et parce qu'il a eu des pensées, il a mis un petit papier, tout ça, ça c'est dans le domaine des pensées. C'est spécifique. Pas tout le monde fait ça, Jean-Luc. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Mais donc, il y a le moment que nous devons choisir. Et ça, c'est 10%. Et ça, c'est très important. Donc, je donne 10 messages en tout, Dieu voulant. J'ai déjà donné 3. Ça, c'est le 4e, sur la volonté de Dieu, qui est spécifique. Alors, je vous donne une illustration. Avant ma conversion, j'habitais dans une rue à Haarlem, en Hollande. Et on m'a environ 200-300 mètres, il y avait une petite épicerie. Et ma mère a dit, il a des choses encore à chercher, des courses à faire. Qui veut le faire? J'ai le fils aîné quand même. Je suis allé là. Et quand je suis allé là, je donne un billet de 10 florins. Et la fille me donnait toujours, elle a fait ça 2, 3, 4 fois, elle me rendait toujours pour 25 florins. Donc moi je voulais bien aller parce que chaque fois j'avais 15 florins en plus, c'est l'argent de poche. Je n'étais pas chrétien, je me sens, ma conscience ne parle pas. Et j'aimais bien aller faire des courses pour maman. Oui mais maman je veux aller parce que ça me donne 15 florins en plus. Pauvre papa de cette fille, d'avoir une fille comme ça au magasin. Mais je ne me sentais pas coupable du tout parce que je n'étais pas chrétien. Je ne me sentais pas voleur non plus, c'était elle qui se trompait, ça c'est son affaire. Et moi j'ai dit merci Seigneur, même pas. Je ne remercie pas Dieu, mais je dis c'est pas rien à ma mère, mais chaque fois c'était 15 florins pour moi. Ça, c'est avant ma conversion. Mais tout a changé. Quand je suis devenu chrétien, tout a changé. J'habitais avec Beryl à Saint-Étienne, notre fille Christine est née à Saint-Étienne. Et là, c'est très, très différent. J'avais une banque, je suis toujours dans la même banque, je donne pas le nom parce qu'autrement tout le monde va dans cette banque, il y a des gens. Et j'allais là et il y avait une fille là, c'est la fille du voisin où j'habitais, dans ce petit village Saint-Gilles-l'Air. Et j'allais à la banque, elle m'a rendu 50 francs, c'est en francs en ce moment, 50 francs de trop. Et j'étais dehors, et j'étais chrétien, et je dis, c'est pas bien. Et je suis rentré, vous avez fait une erreur. Il ne faut pas dire ça, normalement, ils ne font pas des erreurs. Je dis, vous m'avez donné trop. Et quand tu dis ça, ils ont presque une crise cardiaque, parce qu'ils n'attendent pas. Quand tu dis ça. Et cela s'est arrivé à Tourcoing, deux fois, une fois dans ma banque ici à Tourcoing, ils m'ont donné 100 francs de trop. Je suis allé à Auchan une autre fois, ils m'ont donné 100 francs de trop. Et chaque fois, j'ai dit, je vais vous rendre parce que c'est pas bien, vous m'avez donné 100 francs de trop. Ils te regardent, personne ne fait ça. Mais je suis chrétien, je peux pas parce que j'ai changé. Avant cela, je me sentais pas voleur, mais quand on est chrétien, tu ne voleras pas. C'est le 8e commandement. Vous savez ça? C'est le 8e commandement, tu ne voleras pas. Ça, c'est la volonté morale de Dieu. C'est toujours dans ces 90. C'est pas particulier. Normalement, tous les chrétiens doivent agir selon ça et ça changera le monde. Mais je pense déjà. Alors maintenant, après cela, il y a une autre chose qui a changé ma vie. Dans les pensées. Moi, j'avais une maison. Et Jean-Luc et Annette sont venus chez moi à la maison, je pense, souvent j'étais invité pour donner des messages, rue de Saint-Voix. J'avais une maison, Béryl aussi. On est presque mariés 60 ans, entre parenthèses. Ça devient bon. 60 ans de mariage, presque. Mais on était dans cette maison pendant un certain temps, maison avec une salle à côté, pour environ une place pour 150 personnes. C'était quand même une assez grande salle. Et le Seigneur a changé mon cœur un jour. Donc moi j'étais toujours chrétien évangélique, mais pas charismatique, je ne croyais pas dans les dons. Et Dieu, une fois, il a changé mon cœur. Et puis notre église, qui était pas grande, mais peut-être 20 à 30 personnes, on a changé et on a fusionné avec une grande église qui était charismatique. C'est Pierre Lannoy, à Tourcoing. De ce fait, on n'employait plus la salle. Et souvent, Béryl ou d'autres, Nadège aussi, et d'autres personnes, disent, pourquoi tu ne changes pas de maison? Mais je voulais seulement changer de maison et vendre la maison et la salle aux chrétiens et pas non-chrétiens. Et ça, c'est pas facile. Après, nous avons dû attendre environ 8-9 ans. Après 8-9 ans, un jour, il y a un pasteur qui m'a téléphoné et dit, John, qui savait parce qu'il avait une communauté, et il dit, communauté chrétienne, mais pas de salle. Et il louait une salle à Tourcoing, c'est assez cher. Il dit, est-ce que tu peux donner la salle parce que je ne l'emploie pas le dimanche matin? Et je pense, je réfléchis rapidement, je dis, j'aimerais bien t'aider, mais c'est pas possible parce que la porte de secours passe par notre maison. Et nous, dimanche matin, on n'est pas là. Je ne peux pas laisser la maison ouverte, donc c'est difficile. Pendant la nuit, le Seigneur me parle à mes pensées, parce que c'est quand même, on parle des pensées. Le Seigneur me parle et le Seigneur me dit, tu vends ta maison et donnes la salle. Tu vends ta maison et tu donnes la salle. Le pasteur devient président, parce que moi j'étais président de cette association, demande le pasteur de devenir président, et les membres de sa communauté, de son église, devenir les membres. S'il est d'accord. Donc, on a bien réfléchi, et puis j'ai dit, mais j'ai une solution, nous vendons notre maison, et on donne la salle. Il est venu, il était d'accord. Il était bien d'accord, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, quand tu vends ta maison, tu dois choisir une autre maison. Et par toutes sortes de circonstances, nous étions invités une fois à Ronc, c'est une sœur en Christ, c'est une chrétienne, pour avoir un repas. On ne connaissait pas Ronc du tout, et c'était dans un quartier qui nous plaisait. Et donc, un an, deux ans plus tard, je dis, mais on va changer de maison, Béryl, où on s'est bien regardé à Ronc. C'est pour ça qu'on est arrivé là. On regardait un petit peu, et puis il avait justement une maison qui était libre dans un quartier, vous êtes venu aussi là, avec des rues assez larges, pas loin de l'autoroute. Pour venir ici, c'est facile. Pas loin de Tourcoing, pas loin de magasins, etc. C'était pratique. Alors, ce que j'ai fait, c'est dit, Seigneur, je veux bien changer de maison. Et j'ai pensé, j'ai fait une liste avec 15 points. C'est comme une lettre, c'est dit, Seigneur, je veux changer. Voici une liste avec des requêtes, j'ai pensé. Et le Seigneur m'a donné le verset, psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous sommes ici pour toi, missionnaires en plein temps, depuis longtemps, depuis 62, donc presque 60 ans. Plein temps, Seigneur, notre vie est à toi. Fais ce que tu veux, mais nous sommes à toi, 100%. Fais de l'éternité, tes délices, Seigneur. Vraiment, c'est une joie d'être à toi. Et tu dis, fais de l'éternité, et il te donnera son cœur désir. Mon cœur désir, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier point est, Seigneur, une maison avec pas trop d'impôts. Ça, c'est le dernier. Il faut être pratique. J'ai fait ça, mais toutes sortes de choses. Et une maison avec un jardin, et si possible au sud. Alors, une maison est devenue libre. Un homme est venu de l'agence. Et puis, il a dit, les maisons libres dans le quartier Chahuan. Justement, cette sœur en Christ habite dans le quartier Chahuan. Alors, il me dit, c'est une maison avec une belle véranda, vous allez voir. Et je dis, mais comment, il ne savait pas si c'est une maison avec un jardin au sud ou non. Donc, nous sommes invités. Le même jour, je crois, nous sommes invités pour voir acheter la maison ou non. Et là, j'ai pris le boussole. Et ensuite, donc, nous sommes entrés dans la maison. Et il a montré la maison. Et moi, j'ai regardé le jardin. Puis il a regardé un petit peu dans la maison. Ça m'intéressait parce que je suis de la Hollande. J'aime les jardins. Et je n'avais jamais un jardin en France. Et puis, donc, on regarde un petit peu. Et puis, après cela, ça commence. Le monsieur dit, mais il faut décider aujourd'hui, parce que juste avant nous, il y a un autre monsieur qui est entré dans la maison pour visiter. Il dit, le même jour, le même soir, il fallait décider. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Ah ah. Alors là, ça commence. J'avais bien vendu la maison. J'ai vendu la maison 7 fois le prix que je l'avais acheté. C'est déjà bien. Après, oui, de 72, c'était l'année 2000. En octobre, maintenant, en octobre, c'était donc 99. C'était, il y a 20 ans, on a acheté la maison, en octobre. Donc, on a vendu la maison 7 fois le prix, parce que les prix ont monté, c'est normal. Mais ce n'était pas assez pour la maison encore à Ronc. Je ne vous donne pas le prix, hein, c'est parce qu'on n'est pas en marchandage en ce moment. Et puis donc, on a dit oui, par la foi, j'ai dit, mais on prend, le même soir, on achète. Ça c'est John et Beryl, j'ai dit, mais on achète. Mais on n'avait pas assez. Alors le Seigneur m'a donné une pensée, quelques jours plus tard, Beryl avait une réunion de femmes. Et le Seigneur me donne encore une pensée, il y a une femme dans cette raison, cette réunion de femmes, demande 100 000 francs en prêt. Donc j'ai dit à cette dame, j'ai dit Marie, elle ne s'appelle pas Marie. J'ai dit, Marie, est-ce que je peux te voir? Et puis je l'ai demandé à la maison, tout seul, à deux. J'ai dit, j'ai besoin de 100 000 francs comme prêt, est-ce que tu peux m'aider? J'ai toujours voulu vous aider. J'ai toujours voulu aider les serviteurs de Dieu, elle dit. Ça c'est merveilleux de voir les gens comme ça. Elle me l'a donné immédiatement, elle dit, 2-3 mois plus tard, tu l'auras, John. Donc l'argent est venu. Et puis, nous avions assez d'argent pour acheter la maison. C'est comme ça que c'est venu. Tout est miracle, pensez. Pensez pour les 15 points. Pensez pour que cet homme qui était pasteur devient président. Pour l'argent, justement cette dame qui pouvait nous aider. Mais je trouve que c'est merveilleux. Nous avons acheté la maison. Donc, tout cela, honnêtement, c'est bien passé comme ça. Et je trouve, tout a changé en moi d'être un homme honnête. avec les banques, mais aussi même de vendre la maison parce qu'on a fait une estimation par un professionnel qui a dit, vous pouvez vendre votre maison pour ce prix. C'est pas moi qui a dit ça, mais il dit, mais c'est possible. Donc tout est bien, tout a changé. Et donc maintenant, si je peux aller un petit peu plus loin, après des illustrations, comment les pensées se transforment en mauvaises convictions? Et comment les changer en bonnes convictions? On peut avoir des mauvaises convictions, on appelle ça des cassettes en psychologie chrétienne. Je ne sais pas si tu as fait des cours avec nous, des cassettes qui sont bonnes et mauvaises. On a des choses qui tournent dans la tête, mauvaises cassettes, bonnes cassettes, comment changer? Et là, on arrive en Jérémie 3, versets 19 à 23, Jacques, si tu veux. Même si tu ne veux pas, j'en ai besoin. Jérémie. Lamentation de Jérémie. Il a lamenté au début, il a moins lamenté après. On voit d'abord. Is it coming or is it not coming? Ça arrive? Oh, c'est merveilleux. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je me sens triste, je suis déprimé, je ne sens pas bien. Alors, qu'est-ce qui a changé? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, dans mes pensées, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés, la bienveillance. La bienveillance, l'éternel, n'est pas changée. Les bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Tout peut changer. Tout dépend qu'on le pense. Parce que ça, c'est mon message. Donc, pensée spécifique. Je vous ai donné deux messages, deux illustrations. Avant ma conversion et après ma conversion. Spécifique. Être honnête, être clair devant le Seigneur. Et Jérémie a changé. Ces cassettes ont changé et je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons faire en pratique? Nous tous, nous avons besoin aussi de changer de mauvaises cassettes en bonnes cassettes. Comment? Avec les versets de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la première chose. Et j'ai pensé, mais en pratique, comment ça va pour tout le monde? Nous pouvons changer par des petites choses parfois. Quelques moyens pour changer les pensées négatives en convictions positives. Je vous donne quelques tuyaux. Par exemple, entre parenthèses, pour ceux qui veulent avoir mes notes, je peux les envoyer, c'est gratuit aujourd'hui. Par exemple, par les activités suivantes qui sont positives et édifiantes. J'ai mis 10 tuyaux. Comment on peut changer en pratique? Par exemple, on peut changer la façon qu'on pense qui est négative par de bonnes musiques. Moi, j'aime la musique, je joue le piano, je compose, j'écoute aussi. Donc, par la bonne musique, en écoutant et en chantant des chants chrétiens, et aussi en écoutant de la bonne musique, classique ou moderne, ou en jouant un instrument. La musique, parce que pendant que tu écoutes la bonne musique, tu ne penses pas. Ça change tout. Deuxième chose, par la lecture de la Bible à haute voix, parce que cela occupe tout notre être. Essayez de lire la parole de Dieu à haute voix. Ça peut être aussi une bénédiction parce que pendant qu'on fait ça, on n'a pas le temps pour penser. Troisièmement, par le service chrétien, aider les gens, aider avec le jardinage. Dans l'autre église où nous étions avant, de temps en temps peut-être on va aller voir un petit peu parce qu'on a des amis là, il y a un garçon qui est venu nous aider, il s'appelle Timothée, 20 ans. Il est venu avec sa copine nous aider encore cette semaine. Il vient de Pascal. Il ne veut pas être remboursé pour la voiture, rien. Il fait ça tout avec un sourire. Il est venu pour 3 ans, pour 3h30, il a aidé le matin de 10h jusqu'à 13h30 pour tondre le gazon et pour prendre de mauvaises herbes. Et qu'est-ce qu'il a dit une fois? Est-ce que tu aimes le jardinage? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis perfectionniste. Mais si vous voulez avoir un jardin, et vous avez besoin d'un jardinier, quelqu'un qui est perfectionniste, il rafle tout, même les bonnes plantes. Mais il est venu toujours avec un sourire, il fait ça avec plaisir. Il faut presque l'arrêter, ça suffit maintenant. Mais je trouve, gratuitement, il veut rendre service, parce que Beryl avait une crise cardiaque l'année passée, et depuis cela, depuis un an déjà, il vient régulièrement pour nous aider. Merci Seigneur. Par le service chrétien, et il est un exemple pour moi. Par de bons moments de prière, on est occupé avec Dieu et on attend son intervention. Important. De bons moments de prière, pendant que tu as un bon moment de prière, tu n'as pas le temps pour une mauvaise cassette. En pratiquant les dons spirituels, parler en langue, visiter des prières, visiter et prier pour les malades. Employer les dons que Dieu a donnés. Quand tu fais ça, tu n'as pas le temps pour de mauvaises cassettes. En participant aux réunions de l'Église, conférences, autres rencontres. 7. En témoignant autour de toi quand c'est possible. 8. Méfiez-vous de bavardages et mauvaises nouvelles à la télé, radio, journaux. Parce que nous sommes en France et partout dans une culture de la mort. On parle de la mort. Dans les nouvelles, combien de gens meurent et souffrent de ceci et de cela, tu deviens tout déprimé. Donc normalement, moi je change de chaîne. 9. En amenant les mauvaises pensées captives à l'obéissance de Christ. Parfois il y a des mauvaises pensées, et c'est dans la Bible, 2 Corinthiens 10, il faut les amener captives. Seigneur, je ne veux pas avoir ça, ce n'est pas une bonne pensée, je le donne à toi. Et encore 10e, pas de bons films, de loisirs, amusements, de bonnes lectures, de bonnes vacances. Pas trop long, parce qu'autrement on ne se voit plus. En pratiquant ces 10 points, ça peut changer nos pensées négatives en convictions positives. Donc c'est donc je dis, pour ceux qui veulent avoir mes notes, tout est gratuit aujourd'hui. En conclusion, je me suis posé la question à la fin, je dis, mais comment est-ce que Josué a eu du succès dans sa vie? Josué est un personnage, donc, après Moïse, c'est lui qui est devenu le chef. On le connaît un petit peu par l'histoire de Jéricho, mais Josué c'était vraiment un homme intéressant. Et Dieu a dit quelque chose au début de son ministère, de son travail. Il dit, en Josué 1, verset 7, 9, Jacques, si tu veux, merci pour ton service ce matin. Fortifie-toi, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse et mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditez, jour et nuit, pense à ça. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Du succès, tu réussisses dans ta vie, et tout est possible donc, c'est la loi, c'est la volonté spécifique. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Alors, quand je dis spécifique, j'ai oublié de le mentionner, ça veut dire, qu'est-ce que je veux faire quand on est jeune, comme étude? Est-ce que je vais me marier ou pas marier? Avec qui vais-je me marier? Et nous avons fait quand même le conseil depuis longtemps, Beryl et moi, pour conseiller ceux qui vont se marier, cette préparation de mariage. Il y a des gens qui se sont mal, ils ont mal choisi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se divorcent de nouveau, et c'est quand même important dans la vie, avec qui on va vivre. Donc, le mariage ou pas mariage, et quand on se marie, avec qui? Et on est dans une drôle de société aujourd'hui. Marié avec qui? Homme avec homme, ou femme avec femme, ou avec femme avec un homme, ou homme avec une femme. On est vraiment, vraiment, on ne sait plus où on est. Pour les jeunes, il faut beaucoup prier pour nos enfants et nos jeunes. Bousculer, par les traditions des hommes, mais pas par la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux où je travaille? Où est-ce que je vais habiter? Dans quelle maison est-ce que je vais habiter? Tout cela est important. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Quand je vais en vacances, où est-ce que je vais en vacances? Tes vacances peuvent changer ta vie. Peut-être que tu vas rencontrer des gens, on ne sait jamais, des gens qui vont t'aider pour le reste de ta vie. Et les gens que j'ai rencontrés en vacances, parfois c'est pour la vie. Il y a un garçon de 17-18 ans que j'ai rencontré dans un château en vacances avec des jeunes en Angleterre. Il s'appelle Stéphane. 17 ans maintenant, je crois qu'il a 57 ans. Il habite à Hambourg. Et toujours il est en contact avec nous. Chaque mois, il nous envoie 150 euros. Chaque mois, pour nous soutenir, pour nous aider. Mais je trouve que c'est merveilleux. Quand il avait 17 ans, et maintenant, il a combien, 30 ans de plus. Mais je trouve que c'est remarquable. On connaît son épouse, il s'est marié, il a eu 4 enfants. Mais il y a des contacts qu'on a pendant les vacances. C'est pour la vie parfois. Prie pour ça. Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille en vacances? Où est-ce que tu veux que j'habite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme travail? C'est pratique. Ça, c'est dans le 10%. C'est particulier. C'est donc la volonté spécifique. Et je prie pour... Moi, je donne des messages sur les choses spécifiques, les choses générales. Parce que donc il y a la volonté souveraine, la volonté morale de Dieu, les 10 commandements, et la volonté spécifique. Mais moi, je donne des choses spécifiques pour les choses, pour la vie pratique. Pour le reste, c'est beau, c'est intéressant, mais moi, je veux savoir ce que Dieu veut de moi et de Béryl. Merci pour vos prières pour nous. Donc, Josué, il a du succès dans sa vie parce qu'il a vraiment obéi à la parole de Dieu. Et donc, pour terminer, je souhaite à chacun ici d'avoir une vie heureuse, victorieuse, comme celle de Josué. Une vie remplie de succès. Le mot succès est merveilleux. En anglais, c'est success. C'est presque pareil en hollandais aussi. Cela arrive si on veut être renouvelé dans ses pensées pour avoir de bonnes convictions qui vont capter la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Soyez bénis.